Je l'avais repris en début d'été 2019. Je me suis arrêté, mais j'ai constaté que cet évangile, je l'avais commencé en 2017, le début en tout cas, et je me suis aperçu que j'ai pris des temps morts, j'ai repris. Alors je vais essayer de terminer cet évangile durant cette année 2020, parce que beaucoup de choses sont intéressantes en tout cas dans cet évangile, pour que nous puissions comprendre ensemble ce que cet évangile a à nous dire. Donc je reprends à partir du verset 21, pardon, et je vais lire les versets 12 à 22. Alors, pour essayer de comprendre, et bien souvent quand on lit la parole de Dieu, on essaye un petit peu de comprendre tout d'abord pourquoi cet évangile a été écrit. Eh bien, tout d'abord, Dieu s'est servi de l'apôtre Matthieu pour pouvoir écrire aux Juifs. Donc le but, c'était pour les Juifs. L'évangile de Matthieu a été écrit pour les Juifs à la base, c'est-à-dire au départ. D'accord ? Ensuite, l'Église s'en est appropriée et aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de passages qui font référence, en tout cas à l'Ancien Testament, sont cités dans l'évangile de Matthieu. Et beaucoup de choses sont là aussi pour nous montrer, par exemple, les Juifs, le peuple juif aime beaucoup la généalogie. Donc c'est pour ça que vous trouvez, dès le début, dans l'évangile, Matthieu qui a mis cette généalogie pour expliquer par rapport à la nation d'Israël. Donc, quand on lit dans sa généralité l'évangile de Matthieu, nous voyons qu'il y a plusieurs sections. Donc je m'explique. Par exemple, la première section, c'est que Jésus va préparer le peuple. C'est la première section. Deuxième section, c'est que Jésus va former le peuple. Donc, autant les Juifs que les disciples. Ensuite, Jésus va se manifester avec plusieurs miracles durant quelques chapitres où Jésus va faire consécutivement dans plusieurs chapitres plusieurs miracles pour essayer de montrer, pour que les gens l'acceptent dans son cœur. Mais vous avez maintenant cette section qui arrive à partir d'aujourd'hui, à partir du chapitre 19, qu'on a déjà vu la dernière fois, où il va y avoir un rejet total de la part de Jésus. Et à partir du chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, jusqu'au chapitre 25, il va y avoir plusieurs choses qui vont arriver, plusieurs situations qui vont arriver, plusieurs paraboles qui vont être parlées, en tout cas de la part de Jésus. Et on va voir une chose flagrante dans ces passages-là, où les Juifs vont refuser littéralement le Sauveur. Il va y avoir ce qu'on appelle un aveuglement spirituel. Alors, la question que je me suis posée, c'est, eh bien, je mets le titre aujourd'hui, l'aveuglement spirituel. Est-ce encore d'actualité? Je pense que oui. Je pense que notre monde est littéralement aveuglé spirituellement. La nation juive s'est aveuglée elle-même par diverses choses, et je vais vous le montrer dans la parole de Dieu ce matin en vous lisant ces quelques versets. Mais le monde aujourd'hui est plongé dans les ténèbres. Et je vais aussi vous le montrer au travers de quelques passages de la parole de Dieu. Un vieux proverbe africain dit ceci, le chameau ne voit pas sa bosse. Je répète, j'ai beaucoup apprécié, il y a des proverbes comme ça qui sont là, qui le chameau ne voit pas sa bosse. Israël, le peuple d'Israël ne voyait pas son péché. Il voyait ce que Jésus faisait, donc les miracles que Jésus faisait, mais malgré les miracles que Jésus faisait, la nation d'Israël voulait manipuler Jésus à sa propre sauce. On va lire le texte, si vous voulez bien. Évangile de Matthieu, le chapitre 12, chapitre, pardon, 21, et je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 22. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites, et des enfants qui crièrent dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ?» Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui ont à la mamelle, et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Le matin, il retourna à la ville et il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples virent cela, furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez par la foi, par la prière, vous le recevrez. Il faut bien avouer que c'est un petit peu particulier ce qui est en train de se passer là. Mais comme je le disais au début, le chameau ne voit pas sa bosse. Israël ne voyait pas son péché. Et c'est le cas dans ce passage. Israël refusait tout simplement le Messie qui était là devant eux. Et même les merveilleux miracles qu'il faisait, bien, c'était incompris de leur part. Il refusait littéralement la vérité qui venait de Dieu. Il connaissait certains passages de l'Ancien Testament, et c'est pour ça que je disais que l'évangile de Matthieu cite souvent des passages de l'Ancien Testament, ce qui est le cas ici, où il est cité Ésaïe 56, où il est cité Jérémie chapitre 7, où il est cité le psaume même 8. Matthieu fait souvent référence à ces passages de l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, Jésus était promis. Quand vous regardez certaines prophéties de l'Ancien Testament, donc en Ésaïe, 800 ans avant la venue de Jésus, eh bien, Ésaïe avait promis la venue du Seigneur Jésus-Christ, et bien d'autres prophéties ont eu l'accomplissement avec la venue de Jésus. Israël savait très bien que Jésus devait naître à Bethléem. Nous avons cité récemment certains passages pour la fête de Noël, mais Israël savait très bien que les religieux de l'époque savaient très bien que Jésus devait naître à Bethléem, mais ils ont refusé. Ils se sont cachés derrière leur connaissance, leur savoir, derrière leur tradition, derrière leur manière de penser, et ils ont refusé la réalité. Jésus va même leur prétendre certaines choses. Je cite Luc chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous, et vous empêchez d'entrer ceux qui le voulaient. Quelque part, les Juifs refusaient la réalité, parce qu'ils avaient fait de leur religion un commerce, et c'est ce que Jésus est en train de leur reprocher ici. Par leur tradition, ils avaient complètement mis de côté, en réalité, les vérités. Et ils vont même faire une confession, et ça montre bien leur hypocrisie. L'évangile de Jean nous dit que, à un moment donné, pour se justifier, ils vont prétendre que César est leur roi, tu parles. Ils n'étaient pas du tout contents que les Romains étaient là, dans leur territoire. Ils voulaient même qu'ils partent, César. Rome voulait qu'ils partent de là, mais malgré cela, ils ne sont jamais partis jusqu'à une certaine date. Et on peut le voir cela dans l'histoire. Jean chapitre 12 nous donne un petit peu plus de détails. Et c'est intéressant de lire ce passage pour vous montrer que leur aveuglement était vraiment profond. Et que si Jésus leur reprochait certaines choses, eh bien c'est que quelque part, ils étaient vraiment aveugles spirituellement. Je lis à partir du verset 37 de Jean chapitre 12. « Malgré tant de miracles qu'ils avaient faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Donc vous savez, les miracles... J'aime beaucoup les miracles, hein. Je crois qu'il peut y avoir des miracles dans notre société. Mais vous savez, bien souvent, c'est pour abuser le peuple. Et même les miracles qui peuvent se réaliser parfois, hein, quand ça vient de Dieu, c'est une chose, et c'était le cas là, ben malgré ça, le peuple juif refusait de croire en Jésus. On m'a un jour posé la question, et si Jésus revenait aujourd'hui? Oui, pourquoi pas? Il resterait peut-être que 3 ans, comme il a été déjà il y a 2000 ans en arrière, c'est déjà pas mal, mais il a fait tellement de choses merveilleuses, Jésus, que déjà à l'époque, il ne croyait pas. Je suis persuadé que si Jésus demain revenait, les gens ne croiraient pas en lui. Je continue la lecture. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a annoncé le Seigneur. Qui a cru à notre prédication? Et à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ainsi, ne pouvait-il pas croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur. Qui ne voient des yeux et qui ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne guérissent. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. On a quelques détails, parfois, dans la parole de Dieu qui nous montrent que certains croyaient, mais en cachette. Vaut mieux pas révéler qu'on vienne de croire au Sauveur, au Messie. On va y croire en Jésus, mais en cachette. Et c'était le cas pour certains Juifs de l'époque. Nicodème, en tout cas, nous avons cet exemple dans la parole de Dieu, qui va venir dans la nuit pour parler à Jésus, de peur qu'il soit vu de tout le monde. Mais vous avez quelques exemples dans la parole de Dieu qui montrent que certains ont cru, c'est vrai, mais pas tous. Parce qu'ils avaient peur d'être exclus, comme nous dit la parole de Dieu, de la synagogue. Alors nous voyons bien que certains chefs religieux de l'époque manifestaient leur hypocrisie et que Jésus, à un moment donné, va mettre le pied, je dirais, dans la fourmilière pour que ces personnes comprennent certaines choses et en même temps, ils vont pas du tout le comprendre parce que malgré ce que Jésus va faire, eh bien, le Seigneur va laisser l'aveuglement chez ces personnes-là. Alors on va se dire, mais pourquoi, Seigneur, tant d'aveuglement? Pourquoi tant d'hypocrisie? Pourquoi, quelque part, ce peuple était devenu si rebelle que ça? Eh bien, parce que vous le voyez, dans la parole de Dieu, ils se servaient de la religion pour leurs propres intérêts. C'est-à-dire que le temple n'était plus le temple de la prière. Le temple n'était plus l'endroit où on devait venir je dirais, partagé avec les pauvres. Le temple n'était plus l'endroit où c'était un repère, je dirais, national pour les gens qui venaient de l'extérieur. Eh bien, le temple devait représenter cette image d'Israël qui témoignait à l'humanité. Tout simplement parce qu'il faisait du business, littéralement. Il y avait des animaux qui venaient là, dans le temple. C'était l'occasion pour eux de vendre ces animaux pour que les gens puissent faire des sacrifices. Et c'était le cas à l'époque. Eh bien, il y avait du business, mais il n'y avait pas de contrôle. Tout était contrôlé par eux-mêmes, c'est-à-dire il n'y avait pas de concurrence. J'aime beaucoup la concurrence. Si vous allez aux États-Unis, même en France, hein, quand vous avez plusieurs supermarchés, vous voyez que les gens vont faire les prix, c'est-à-dire ils vont descendre les prix. Là, c'était pas du tout le cas. C'était une personne qui contrôlait. L'histoire nous dit que c'était Anne, l'ancien sacrificateur, et ses fils qui contrôlaient toute la situation. Donc vous pouvez imaginer le business qui pouvait se faire au travers de ce temple à l'époque. Et c'est ça que Jésus est en train de condamner. C'est pour cela que Jésus va condamner une première fois dans l'évangile de Jean au chapitre 2, où il va bousculer les gens avec un fouet, et 3 ans après, vous n'avez toujours pas compris la leçon. C'est-à-dire que 3 ans après, c'est-à-dire que là nous sommes pratiquement à la fin de la vie de Jésus, donc à l'âge de 33 ans, il va bientôt aller sur la croix, eh bien, malgré cela, il n'avait toujours pas compris la venue du Seigneur, pourquoi le Seigneur était là, pour quelle raison il était là, et Jésus va condamner cela, et il va leur montrer clairement qu'il faisait de ce temple une caverne de voleurs. Alors c'est une expression qui est dure, mais nous avons aussi aujourd'hui, si vous allez dans certains endroits, la fameuse expression que nous avons, les marchands du temple, viennent de cette période où vous avez aujourd'hui des gens qui font du business avec la religion. Il suffit d'aller dans certaines cathédrales en France, il suffit d'aller voir certains endroits parfois soi-disant religieux. Je suis d'origine italienne, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis assez derrière cette chair, mais ma mère aimait beaucoup aller dans des endroits religieux en Italie. Croyez-moi que les Italiens sont devenus des spécialistes dans la religion, pour la vente des bijoux, pour la vente des petits ossuaires ou de toutes sortes de choses, les petites statuettes. Alors on est devenus des spécialistes en Italie puisque c'est bien sculpté, ça c'est sûr que c'est du professionnalisme hein, là-dessus, mais en même temps, ça montre bien que ce genre de choses nous éloigne complètement de Dieu. Et les Juifs de l'époque éloignaient complètement les gens de Dieu, c'est-à-dire avec leur petit business, eh bien, ils éloignaient complètement les gens de Dieu. De nos jours, beaucoup d'hommes et de femmes se cachent derrière leur cerveau. Vous savez, c'est malheureux de savoir que des fois, des gens qui ont fait des études, qui ont fait de longues études, je me dis, mais ils ne voient pas la réalité quand ils se lèvent le matin de la création. Ils ne voient pas les merveilles de Dieu. Je me dis, mais jusqu'à quand les gens dans ce monde se cachera derrière sa cervelle? Je me dis, mais jusqu'à quand? Mais la Bible le dit clairement. Dieu les a aveuglés, Dieu les a mis dans les ténèbres. C'est voulu. Ce monde est dans les ténèbres. Tant que ce monde ne croira pas en Jésus, ce monde restera dans les ténèbres. C'est voulu par Dieu. Les Juifs étaient dans les ténèbres et ils refusaient la réalité de ce que Dieu faisait. Des fois, on se cache derrière l'institution. C'était le cas pour les Juifs de l'époque. Hein. Malheur à nous si nous confessons que Jésus est le Messie. Mais combien de gens, parfois, même nous-mêmes, nous oublions de parler de l'essentiel quand on rencontre une personne qui ne croit pas en Jésus. Je l'ai raconté ce matin, mais je voudrais vous la raconter, parce que c'est tellement merveilleux que je me dis quand même Dieu agit au 21e siècle. Il y a plus d'un an, j'ai été invité par une église à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, c'est une église qui me soutient depuis maintenant quelques années. Et de temps en temps, elle me demande de bien prêcher une fois de temps en temps. Et après la prédication, un couple de Guadeloupéens nous a invités dans sa maison. Donc on s'est réjouis. Je dis, on va manger autre chose qu'on a l'habitude de manger à la maison. Donc on était réjouis d'aller chez ce couple entier. Et puis au cours de la conversation, j'ai regardé mon épouse, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il a une apparence, lui surtout, pas elle, parce qu'elle était vraiment convaincue qu'elle était en Jésus-Christ, puisqu'à un moment donné, il a voulu aller chercher le dessert, et son épouse m'a confié, il n'est pas du tout en Jésus-Christ. Il n'est pas du tout en Jésus-Christ. Donc, me donnant ça, l'occasion pour moi de pouvoir lui dire gentiment, si tu continues comme ça, tu vas rester dans les ténèbres. Et j'ai eu l'occasion de lui témoigner de ma foi. Mon épouse aussi a eu l'occasion de lui témoigner de ma foi. Son épouse vient de m'appeler la semaine dernière. En me disant au téléphone, je me réjouis de te téléphoner, pasteur, parce que vous avez été une des personnes qui a fait réfléchir mon mari à la conversion et au baptême. Il vient de se faire baptiser il y a quelques jours à l'église. Alors je me suis dit, mais merci Seigneur, je me dis, on a été peut-être quelqu'un qui a suscité à un moment donné un intérêt. 25 années qu'il allait à l'église tous les dimanches. Ça marque de la fidélité. 25 années. 25 années de ténèbres. Jusqu'à ce qu'il comprenne que Jésus-Christ était le sauveur du monde et il a accepté de passer par les eaux du baptême. C'est merveilleux. Moi, je me suis dit, écoutez, quand j'ai raccroché, je dis, Seigneur, moi, je suis prêt à recevoir un coup de fil tous les jours, comme ça, pour me motiver, en tout cas, dans mon ministère, ici-bas, sur cette terre. Mais nous avons la même responsabilité, hein, chers amis. L'année 2020 vient de se présenter devant nous. Nous avons la même responsabilité. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, nous avons la responsabilité de lui témoigner témoigner de la foi aux personnes qui n'ont pas Jésus-Christ. Prenons toutes les opportunités pour le faire. Pour une personne, ça sera peut-être trop tard. Elle entendra peut-être qu'une seule fois l'Évangile. Et je me dis, c'est l'occasion pour nous de pouvoir leur partager de l'Évangile. Le Seigneur, à chaque fois qu'il pouvait faire des miracles, il le faisait. Il n'attendait pas le lendemain pour les faire. C'était le jour où il devait étonner le peuple. Et le peuple, malgré l'étonnement, malgré les louanges, malgré certaines choses que Jésus faisait, le peuple restait dans l'aveuglement. Vous allez me dire, mais le cœur est dur, hein? Ben oui, le cœur est dur. Le cœur est rebelle. Les Juifs voyaient des choses étonnantes. Malgré ça, ils restaient dans leur enfermement. Deuxième point important, premièrement la purification du temple, mais en même temps la deuxième situation, c'est le figuier. Malheur au figuier. Je me dis, mais Jésus aurait pu choisir un autre chemin, ou il aurait pu lui dire à ce figuier, écoute, l'année prochaine, quand je reviens à la même heure, je voudrais avoir 2 ou 3 kilos de figues. Non, non, c'est la malédiction de ce figuier qui est à retenir là. Mais le texte nous montre dans d'autres passages que, bien, il n'y avait pas de feuilles, ce n'est pas la saison des figues. Mais quelque part, il ne faut pas voir le malheur de ce figuier qui va recevoir la malédiction de la part de Jésus. Mais quelque part, si vous regardez un petit peu dans la parole de Dieu, vous avez quelques passages qui montrent que le figuier s'est symbolisé par la nation d'Israël. C'est-à-dire que dans beaucoup de passages, on nous parle que le figuier est la représentation d'Israël. Quelque part, Dieu dit clairement, je vais t'enlever le chandelier, tu n'es plus productif, je vais carrément te déraciner. Donc, ce que tu devais faire jusqu'à maintenant, tu ne le fais pas, alors je vais te maudire littéralement. Et c'est ce que Jésus va faire au travers de ce figuier. Il ne va pas maudire l'arbre, c'est juste symbolique. C'était la nation d'Israël qu'il était en train de maudire littéralement. Alors on va se dire, mais Jésus n'est pas venu ici-bas pour maudire. Et je suis d'accord avec vous, mais l'endurcissement de cette nation était tel qu'à un moment donné, il fallait que Jésus leur montre réellement ce que ce que Dieu était là au milieu d'eux, présent, et malgré cela, ils refusaient. La sentence de Jésus n'est pas venue immédiatement. Si vous allez en Israël aujourd'hui, sur le mont, ce que vous appelez aujourd'hui le mont du Temple, à la base, il y avait un temple, là. Aujourd'hui, vous avez une mosquée, même deux, si vous visitez Israël. Mais à l'époque, quand Jésus était là, il y avait un temple. Israël voudrait reconstruire ce temple. Impossible aujourd'hui. Vous avez une mosquée, aujourd'hui, qui a été construite 600 ans après Jésus-Christ. C'est les Arabes qui ont construit cette mosquée. Vous savez, à l'époque, ils étaient très intelligents. Et aujourd'hui, ils le savent bien que c'est une pression. Et vous savez, quand vous regardez l'actualité aujourd'hui en Israël, je me dis, mais imaginez un instant que les Arabes décident d'enlever cette mosquée, de faire reconstruire le temple sur cette esplanade. Aujourd'hui, vous savez, ils se lamentent sur un mur. Enfin, soi-disant mur. Mais à l'époque, Israël avait le temple là-dessus. Et aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Donc, ils ne peuvent que se lamenter sur un mur qui, soi-disant, prétend être de la période de Jésus-Christ, mais en réalité, ça n'a rien du tout. Et je me dis, voyez-vous, bien souvent, on fait des choses prétendant être des choses comme si le mur était une bénédiction. La dernière fois, quand j'y suis allé, j'ai même voulu le toucher pour savoir s'il était vraiment un vrai mur. C'est un vrai mur. Je l'ai touché, j'ai pris une photo à côté, mon épouse aussi. Enfin, il y a la partie des hommes et la partie des femmes. En Israël, il ne faut pas mélanger les deux. Donc, j'y suis allé tout seul dans ma partie et mon épouse est allée toute seule dans sa partie. Mais voyez-vous, malgré ça, Israël restait aveugle. Aveugle, aveugle, aveugle. Et je me dis, c'est triste, n'est-ce pas, de constater cela. C'est triste parfois de constater que certaines personnes qui nous entourent sont dures comme la pierre. Malgré la réalité, malgré les bienfaits de Dieu, malgré le fait que Dieu fait des choses merveilleuses aujourd'hui encore, malgré ça, le cœur est dur. Mais prenez espoir, tant que Jésus n'est pas revenu, et je le précise bien, tant que Jésus n'est pas revenu, vous avez la possibilité de continuer à prier pour ces personnes qui refusent d'accepter Jésus. Pour ceux qui n'ont pas Jésus ce matin, imaginez un instant, mais juste un instant, que Jésus revenait demain. Et que la personne que vous avez chère et tendre à côté soit enlevée par le Seigneur. Vous n'aurez pas d'excuse. Vous ne pourrez pas dire, il ne me l'a pas dit. Il ne m'a pas averti. Il a témoigné de sa foi durant toute sa vie. Vous ne pourrez pas dire, il ne me l'a pas dit. Alors n'attendez pas l'enlèvement de l'Église. N'attendez pas les choses incroyables. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la grâce. C'est pas demain. Si vous entendez parler de Jésus, c'est aujourd'hui que vous devez accepter Jésus-Christ dans votre cœur. Il y a de belles leçons à prendre ici, dans ces deux passages. La première leçon, et c'est ma conclusion pour ce matin, nous observons en tout cas dans ces passages que le péché et l'orgueil arrivent à rendre les plus instruits moins intelligents que les enfants. Je m'explique. Les enfants ont loué Dieu, ont loué Jésus de voir des choses incroyables, les intellectuels de l'époque. Ils étaient indignés de voir des miracles. Mais vous savez, ça nous montre bien que dans notre société, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Tu vas à l'église? Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Mais c'est exactement le même discours de notre société aujourd'hui. Des personnes soi-disant intellectuelles qui nous disent, mais tu as besoin de Jésus, mais c'est parce que tu es quelqu'un de faible. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Moi, je préfère être quelqu'un de faible et croire en Jésus et être sauvé et d'être avec lui dans l'éternité que d'être quelqu'un intelligent et me retrouver en enfer pour l'éternité. Deuxième leçon. L'histoire de l'Église confirme que Jésus ôte le chandelier. Vous connaissez l'Église d'Éphèse? Elle se trouve dans les Épîtres. Et cette Église était valorisée par, l'apôtre Paul. Quand il écrit à Éphèse, l'apôtre Paul leur dit, mais je vais même vous fournir toutes les armes nécessaires pour combattre. Et quand vous regardez Éphésiens chapitre 6, vous avez là une liste des armes que Paul a fournies à l'Église. La même Église, Apocalypse chapitre 2, c'est exactement la même Église qui est parlée dans ce livre de Apocalypse chapitre 2. Voici ce que le reproche que Dieu va faire à cette Église, c'est quand même intéressant. Il ne va pas le faire à tout le monde, mais à cette Église, il va le faire. Verset 4, chapitre 2, verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà le reproche que Jésus fait, que Dieu fait à l'Église d'Éphèse. Elle avait abandonné son premier amour. Est-ce que vous pensez qu'on peut abandonner son premier amour? Mais oui! Notre humanité peut nous troubler, notre humanité peut nous mettre en doute, notre humanité peut nous poser cette question, mais où est ton Dieu? J'attends encore, je ne vois toujours pas Dieu se manifester, et voyez-vous, l'humanité n'a pas changé, elle porte toujours du fruit dans les ténèbres. Et quand on parle avec certaines personnes, eh bien, il faut constater que parfois, Dieu enlève le chandelier parce que nous avons accepté dans notre vie, nous n'avons pas pris position à un moment donné dans notre vie, et nous avons accepté d'être un pied dans le monde et un pied avec Jésus. C'est ce qui arrive aujourd'hui, vous savez, dans notre société. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'églises ne portent plus de fruits. Et c'est triste. C'est triste de le constater. Jésus a dit, est-ce que quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura encore des hommes et des femmes dans la foi? C'est triste de constater cela. Alors c'est vrai qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent dans certains endroits. Mais dans d'autres endroits, c'est devenu un désert spirituel. Et on doit constater parfois que l'arbre inutile, Dieu le sèche. Dieu parfois permet de ôter la lumière chez certaines personnes. Ça m'attriste de le constater. Mais Dieu ne veut pas que la terre soit inutile. Et je trouve que parfois le Seigneur agit avec grâce et bonté vis-à-vis de nous. J'ai toujours eu peur que Dieu m'enlève le chandelier, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, mais il ne l'enlèvera jamais puisque c'est une promesse qu'il a faite. Je suis avec vous tous les jours. Mais la peur et la crainte que j'ai, c'est que je ressemble de plus en plus à ce monde. Ce monde qui va à sa perte. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez croire tout ce que vous voulez. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, c'est parce que ce monde est en train d'aller à sa perte. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin uniquement de Jésus. S'il ne croit pas en Jésus, il va aller dans la damnation éternelle. C'est une promesse non pas de Nicolas Bianco, c'est une promesse de la parole de Dieu qui le dit clairement. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas aller dans l'éternité. Vos bonnes œuvres ne vous apporteront rien du tout. Le jour que vous allez vous présenter devant Jésus, c'est où vous aurez accepté Jésus ou pas. Et si vous n'avez pas accepté Jésus, eh bien, la Bible dit clairement que ça sera la damnation. Vous serez jeté dans le feu de soufre, donc l'enfer, littéralement. Et je pense qu'on doit vraiment se poser cette question à un moment donné. Alors, arrêtons-nous de nous cacher derrière quelque chose, notre intelligence, notre cerveau, mais posons-nous les vraies questions. Quand je vais mourir, où je vais aller? Je vais aller en enfer ou je vais aller retrouver Jésus-Christ? Je pense que c'est une bonne question à se poser aujourd'hui. Hein. Quand je vais mourir, demain. Parce que ne croyez pas que vous êtes éternel. Même si le monde fait tout le nécessaire pour que vous soyez éternel, ne croyez pas que vous serez éternel. Un jour, tout va s'arrêter. Et cette question, vous devriez y répondre maintenant, pas demain. Demain, ça sera trop tard, peut-être. C'est maintenant que vous devez répondre à cette question. Amen.